Paix. Bonjour. Lai, 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 lai. C'est le langage de Sam, hein, c'est ça. Alors ça veut dire, je suis tellement content d'être à votre convention missionnaire ce matin et de pouvoir démarrer avec vous en ce beau mois de septembre, ce mois de rentrée, eh bien en parlant de la jeunesse, en parlant eh bien de cette mission que le Seigneur nous donne envers la génération suivante, entre autres. Mais c'est combien c'est important. Alors, j'aimerais peut-être vous présenter ma meilleure moitié. Elle est photographe à 16 heures, elle est en train de prendre une photo. C'est Yolanta, elle va se lever. Alors, voilà, elle précise toujours avec un... voilà, on a pris un mot hébreu apparemment, donc on va l'utiliser. On va le ramener à Paris et puis ils vont se demander d'où on vient. De Toulouse, quelle belle ville vous avez. Ah, j'ai découvert la ville rose, c'est ça, hein? Et la vie en rose aussi, c'est tellement beau et je suis très heureux d'avoir pu vivre déjà cette journée de vendredi avec vos pasteurs. Merci pour l'invitation, c'est vraiment un privilège pour moi de me tenir devant vous. Et cette journée d'hier avec les parents, avec les monos, alors on a travaillé, je les ai un peu fait bosser, hein? Mais c'était, je pense, en tout cas, un temps béni pour moi et j'espère pour eux aussi. Et je voulais partager avec vous un texte de l'Écriture parce que tout ce que nous disons, eh bien, nous vient de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de nous-mêmes, mais de ce que le Seigneur nous donne à dire. Et j'aimerais que nous partagions ensemble ce texte qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 16. Et nous allons lire les versets 23 à 34. Actes chapitre 16, versets 23 à 34. Alors c'est bien, je ne suis vraiment pas dépaysé. Hein. Nous avons exactement le même pupitre à Saint-Germain-en-Laye. Voilà, donc c'est la même marque, le même fabricant. Je suis comme chez moi. Actes chapitre 16, versets 23 à 34. Nous retrouvons deux missionnaires. Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Celui-ci qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici !» Alors, le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il les mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Ils répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors, je vais faire un peu de place. Voilà. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà une parole biblique encourageante comme on les aime, n'est-ce pas? Non? Si, quand même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais que signifie-t-elle vraiment? Je connais beaucoup de familles, en tout cas en Île-de-France, c'est le cas. Je ne sais pas à Toulouse, vous me le direz, mais je connais beaucoup de familles qui aimeraient être complètes le dimanche matin pour louer le Seigneur ensemble. Mais elles ne le sont pas. Elles ne sont pas. Qui un mari, qui une épouse, qui des enfants, qui des petits-enfants ne sont pas là à l'appel le dimanche matin pour louer le Seigneur ensemble. Et c'est là un désir tout à fait légitime. Il est fondé sur notre amour du Seigneur, bien sûr, mais sur l'amour que nous portons à nos enfants. à nos petits-enfants. Et je ne m'étonne pas que certains chrétiens se soient saisis de cette réponse de Paul et de Silas au geôlier pour en faire une sorte de promesse divine qu'ils appliquent à leur famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et dans leur zèle, ces chrétiens affirment presque, le Seigneur, par la bouche de ses apôtres, a promis que si je crois en lui, toute ma famille serait sauvée. Mais est-ce vraiment ce que ce texte signifie? Est-ce vraiment une promesse automatique qui s'accomplira tôt ou tard en entraînant tous les membres de notre famille à se repentir, à changer de vie et à suivre Jésus-Christ? Au risque de vous décevoir, à ce stade de notre réflexion, je suis obligé de vous dire non. Malheureusement, ce n'est pas parce que nous avons cru que toute notre famille va croire. Ce n'est pas là quelque chose d'automatique. Il n'est pas juste de penser qu'à travers ce texte, Dieu s'engage à sauver de gré ou de force tous nos enfants, tous les membres de notre famille. Chaque être humain est libre de croire. Chaque être humain est libre de ne pas croire. Le Seigneur n'a jamais forcé personne à l'aimer, à lui obéir. Il nous a créés libres de le choisir, libres de le rejeter. Il nous a créés libres de l'aimer, libres de le haïr, libres de lui obéir, libres de l'ignorer. Il nous a créés libres, il a pris ce risque tant il nous aime. Mais alors que signifie « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille » ? Par cette parole, je crois que les apôtres voulaient simplement dire au geôlier que cette offre de salut extraordinaire qu'il lui faisait n'était pas réservée à lui seulement, mais qu'elle était aussi, qu'elle s'étendait à tous les membres de sa maison. C'est le mot employé dans le grec. Et ça va bien au-delà des membres de sa famille, puisque cela inclut même les serviteurs et les servantes, tous les membres de sa maison. Vous l'aurez compris, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas vraiment une promesse. Ce n'est pas un engagement de Dieu qui s'accomplit automatiquement, quoi que nous faisions, quoi que nous ne faisions pas. Non, c'est une offre. Une offre que le Seigneur nous fait, que nous devons saisir. Une offre qu'il nous faut prendre à bras le corps. Ok. Mais concrètement, comment puis-je saisir cette offre? Que puis-je faire pour que ma famille soit sauvée? Que puis-je faire pour que la génération suivante connaisse ce merveilleux salut? Comment puis-je faire en sorte qu'il goûte combien l'Éternel est bon? Pour répondre à cette question importante, je vous propose de nous attarder sur le témoignage du geôlier de Philippe, parce que ce dernier a justement eu le privilège de voir toute sa maisonnée accepter Christ comme Sauveur et Seigneur. Et donc, il est important de pouvoir regarder de plus près ce témoignage. Mais pour bien comprendre, je vous invite à regarder un peu le contexte de cette histoire. Parce que si nous voulons comprendre la réaction du geôlier, il nous faut un peu revoir brièvement ce qui a conduit nos deux missionnaires au fond de cette prison. Et là, nous partons d'Antioche, où Paul avait décidé de partir pour un second voyage missionnaire. Cette fois, il prend avec lui Silas, et le long du parcours, d'autres vont se joindre à lui, Timothée, Luc. Et par le moyen d'une vision, le Saint-Esprit les dirige vers la Grèce. Philippe étant la première ville du district de Macédoine, il décide de s'y rendre. La ville de Philippe était bâtie comme une véritable petite Rome. C'était une Rome en miniature, dans le nord de la Grèce. Elle avait des privilèges liés justement au fait qu'elle avait été reconnue par l'empereur lui-même comme une ville italienne, d'une certaine manière. Elle était peuplée majoritairement d'anciens militaires, d'anciens légionnaires romains à la retraite, à tel point qu'il n'y avait pas assez de juifs dans cette ville pour former une synagogue. Et donc, l'apôtre Paul va devoir sortir de la ville pour rejoindre un lieu de prière quelques centaines de mètres plus loin, autour de la colline. Il y a une rivière qui coule pas loin, la rivière Gangitis. Et il va jusque-là parce qu'il a entendu dire qu'il y a là-bas des femmes qui se réunissent pour prier. Au bord de cette rivière, il annonce l'évangile à ces femmes réunies et l'une d'entre elles, nommée Lydie, se convertit et elle décide de prendre le baptême, elle et toute sa famille. Et à partir de ce jour, notre petite équipe missionnaire va être logée chez Lydie, qui a visiblement quelques moyens pour pouvoir loger toute cette équipe. Un jour, alors que notre équipe missionnaire retourne à cette rivière pour, encore une fois, annoncer l'évangile, eh bien, une jeune fille habitée par un esprit de divination se met à les suivre en criant très fort derrière eux qu'ils sont les serviteurs du Très-Haut qui annoncent la voie du salut. Une publicité, mais beaucoup mieux que ce que JP a fait pour mes livres, mais une publicité gratuite, extraordinaire, tous les jours. Elle ne rate pas un jour, mais Paul sait très bien, et ses amis avec lui, que loin de glorifier Dieu, l'annonce de cette jeune fille sert en réalité à vanter ses capacités divinatoires pour pousser les gens de la ville à justement aller vers elle contre paiement, afin de connaître leur avenir. Après un certain temps, Paul en a assez. Il chasse le démon qui la faisait parler. Et en voyant la jeune fille retrouver son bon sens, les patrons de la servante comprennent immédiatement que leur business est fini. Et donc, ils se mettent en colère. Ils se saisissent de Paul et de Silas. Ils les mènent sur la place principale de la ville. Ils ameutent la foule de badauds, de commerçants du centre-ville. Ils les accusent devant les magistrats de la ville de troubler l'ordre public. Sans défense, sans procès. Parce qu'on pense que ces missionnaires ne sont que des juifs. Les magistrats leur font arracher leurs vêtements, fouetter sur la place publique. Et comme si ce n'était pas assez, ils ferment les yeux sur ce que la foule fait, la foule qui se met à les tabasser à coups de pied, à coups de poing. Lorsqu'ils en ont fini avec eux, ils les détachent et ils les traînent. Ils traînent ces missionnaires ensanglantés jusque une centaine de mètres plus loin, il y a la prison de la ville. Et là, ils jettent nos deux missionnaires dans le cachot le plus sombre, le plus profond de la prison, sans oublier de leur mettre les ceps aux pieds, comme s'ils pouvaient s'échapper. On aurait pu s'attendre à ce que Paul et Silas se plaignent, gémissent toute la nuit. Je pense qu'il ne devait pas y avoir une seule partie de leur corps qui ne leur procurait des douleurs, tant ils avaient été tabassés. Malgré cette souffrance due au fouet, au cou, malgré les crampes que devait occasionner cette position, leurs pieds étaient attachés aux ceps, eh bien, nos deux missionnaires avaient le cœur à chanter et à louer Dieu. Et ils chantaient fort. Ils chantaient à gorge déployée. Ils louaient Dieu si généreusement qu'ils empêchaient littéralement les autres prisonniers de dormir. C'était la nuit. Et eux, ils chantaient, ils louaient Dieu. Ces pauvres prisonniers, enfin pauvres prisonniers, ils entendaient l'évangile, comprenons-nous bien. Mais ils n'arrivaient pas à dormir, ils étaient forcés d'écouter les louanges. Au beau milieu de la nuit, alors qu'ils chantaient encore, un tremblement de terre ébranla les fondations de la prison, les portes s'ouvrirent, les liens se détachèrent. Le geôlier qui avait fini par s'endormir malgré les cantiques de nos deux missionnaires se réveilla en sursaut. Il voit les portes ouvertes près de lui. Il croit que tous les prisonniers se sont échappés. Il fait noir. Et sans attendre, il décide de s'appliquer la peine qu'il mérite. pour avoir laissé s'échapper tous ses prisonniers. Cet homme était peut-être un ancien militaire. Il savait ce qu'il attendait. Il préférait encore se mettre à mort. En réalité, comme il faisait très sombre, il ne voyait pas que tous les prisonniers étaient encore là, étaient présents avec Paul et Silas. Il allait se jeter sur son épée lorsque Paul l'en empêche. Et là, le geôlier réalise en un instant que ce qui vient de se produire est dû à l'intervention du Dieu que Paul et Silas annoncent. Du Dieu que Paul et Silas louent par leur chant, par leur prière. Et donc, il sécurise à nouveau les prisonniers, mais conduit Paul et Silas hors de la prison pour leur demander cette fameuse question « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ce à quoi Paul et Silas répondent « Crois au Seigneur Jésus, crois !» Beaucoup aujourd'hui prétendent croire. Ils disent « Je crois !» Je dis prétendre parce que leur définition de croire vient tout simplement du dictionnaire. Elle signifie tenir quelque chose ou quelqu'un pour vrai. Je crois. Je crois en Jésus, oui, c'est un personnage historique. Il a vraiment existé. Il a fait beaucoup de bien autour de lui. Et il a même subi une mort atroce, injuste. D'autres vont peut-être un peu plus loin. Je crois. Et je tiens pour vrai le fait qu'il disait être le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu venu pour mourir pour nos péchés. Mais est-ce cela que Paul et Silas disent au geôlier? Lui demandent-ils de marquer son accord sur une confession de foi? Un accord théorique, un accord intellectuel? Non. Dans le mot « croire » en grec ancien, il y a la notion de confiance. Il y a la notion d'abandon. Il y a la notion d'attachement, d'obéissance, de dépendance. En disant « crois », Paul et Silas disent à cet homme, « Ce Jésus dont tu viens d'entendre parler par nos chants, par nos louanges, par nos prières, ce Jésus qui t'a été présenté tout au long de la nuit, ce Jésus que tu as appris à connaître à travers nous, ce Jésus demande que tu lui abandonnes ta vie, que tu t'attaches à lui et que tu lui obéisses. Rien de moins. » D'ailleurs, la question même du geôlier en disait long sur ce qu'il avait déjà entendu du message de l'Évangile. « Que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il avait entendu parler du salut. Eh bien, crois. Abandonne-toi à Jésus. Il est le seul qui puisse pardonner tes péchés, effacer tes fautes, te permettre de recommencer ta vie, tout à nouveau. Crois, c'est-à-dire attache-toi à lui. Il est le seul qui puisse te satisfaire pleinement. Crois, obéis-lui, car il est le seul qui puisse te conduire vers la vie, la vraie vie, qui se poursuivra jusque dans l'éternité. Crois au Seigneur Jésus, pas au petit Jésus de la crèche, au Seigneur, c'est-à-dire le Maître, celui qui a vaincu la mort, celui qui est assis à la droite de Dieu, qui règne, celui à qui toutes choses sont soumises, celui qui ordonne. Et la terre s'exécute. Celui qui a provoqué ce tremblement de terre, celui qui nous a libérés, crois au Seigneur Jésus, celui qui seul peut offrir un salut extraordinaire, mais qui demande de ta part une entière soumission, qui demande de ta part que tu l'appelles Seigneur, c'est-à-dire Maître. À travers ces quatre mots, crois au Seigneur Jésus, le geôlier fut donc invité à se repentir, à changer de vie, à soumettre son existence à l'obéissance d'un nouveau maître sur lequel il allait devoir calquer chacun de ses pas. Mais revenons à notre question de départ. que puis-je faire pour que les membres de ma famille soient sauvés ?» Eh bien, la première chose à faire est d'imiter ce geôlier. Car il ne suffit pas de croire intellectuellement. Il ne suffit pas d'accepter de suivre les traditions d'une religion, quelle qu'elle soit, pour que les membres de ma famille se tournent vers Dieu. C'est notre réelle consécration au Seigneur, notre attachement fidèle à lui, notre amour pour lui, notre sincère obéissance à ses paroles qui interpelleront les membres de notre famille. Seule la joie, seule la paix, l'amour surnaturel qui rayonne du visage d'une personne en communion avec le Seigneur, d'une personne amoureuse de Jésus, peut interpeller nos enfants, peut interpeller nos adolescents, peut leur donner envie de vivre la même chose. Les études montrent sans surprise que le milieu familial revêt une importance considérable en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture du cœur des enfants aux réalités spirituelles. Parce que de manière consciente ou inconsciente, en tant que parents, nous transmettons nos valeurs. Nous transmettons nos valeurs, quelles qu'elles soient, bonnes ou mauvaises. Nous transmettons nos valeurs. Je lisais l'histoire d'un grand pasteur et prédicateur anglais dont les quatre fils étaient devenus, eux aussi, pasteurs, prédicateurs. Et donc un jour, alors que l'un de ses fils venait de terminer sa prédication dans une grande assemblée, il y avait des journalistes qui sont venus l'interviewer, qui lui ont posé la question, mais lequel des cinq est-il le meilleur prédicateur de la famille? Bien sûr, ce journaliste s'attendait à ce que ce fils honore son père et dise, bah, c'est papa le meilleur, c'est lui qui nous a tout appris. À sa grande surprise, ce fils a répondu, le meilleur prédicateur de la famille, c'est maman. C'est maman. Ouais. Parce que ce ne sont pas nos paroles, c'est notre comportement qui est révélateur de l'Évangile. Nous sommes comme des livres ouverts dans lesquels, eh bien, chacun de nos enfants peut lire l'Évangile. Notre vie de prière, notre attitude face aux difficultés de la vie, l'atmosphère familiale, l'intensité de notre foi, tout cela contribue au salut de nos enfants. Que nous le voulions ou non, en tant que parents, nous transmettons notre âme. Et si celle-ci est imprégnée de l'Évangile et de ses valeurs, alors les probabilités sont très grandes pour que la prochaine génération accepte cette foi et en fasse la sienne librement, volontairement. Mais ce n'est pas tout. Pour répondre à cette question, je vous invite à revenir au témoignage du geôlier et de relire ensemble les versets 32 à 34. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il les fit monter dans sa maison, mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Luc, qui nous raconte ce témoignage extraordinaire, précise que le geôlier fit en sorte que toute sa famille entende l'Évangile. Parce que comme l'écrit Paul aux Romains, chapitre 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler ? S'il n'y a personne qui prêche. » En tant que parents, en tant qu'adultes, c'est là notre responsabilité également. Notre geôlier n'était pas en mesure d'annoncer, d'expliquer l'Évangile à sa famille, mais il a fait en sorte que Paul et Silas puissent le faire dans les meilleures conditions. Heureusement, en tant que parents, il ne nous est pas demandé d'être des super éducateurs chrétiens. Mais votre Église, avec ses ministères formés, consacrés, est là pour vous accompagner, pour soutenir votre famille, pour faire en sorte que vos enfants, vos adolescents, vos jeunes se tournent vers Jésus-Christ le plus tôt possible. Cependant, même la meilleure Église, avec les meilleurs moniteurs, même si votre Église avait des moyens illimités, elle ne pourrait rien faire sans votre collaboration, sans votre engagement. Ce n'est que dans un travail en commun, parents, Église, parents, moniteurs, qu'augmentera la probabilité que nos enfants acceptent un jour ce Sauveur merveilleux que nous avons accepté. Et acceptent un jour, eh bien, de suivre ses traces et de devenir de véritables disciples, disciples de Christ. Voilà pourquoi, en tant que parents, notre responsabilité consiste, eh bien, à nous tenir informés sur le fonctionnement du groupe auquel participe notre enfant, sur le déroulement des rencontres, sur les programmes, sur les buts poursuivis, sur les activités, les enseignements qu'ils reçoivent. Parce qu'il nous faut mettre toutes ces activités en priorité dans notre agenda familial. En priorité. Je suis confronté si souvent à des parents chrétiens qui se plaignent que leurs enfants décrochent. Mais un peu plus tôt, lorsqu'il avait s'agi de faire un choix entre le basket et le groupe d'ados, le choix se portait sur le basket. Vous voyez ce que je veux dire? Je disais à ses parents, mais voulez-vous qu'il devienne un basketteur professionnel? Ou voulez-vous qu'il devienne un disciple de Christ? Quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre agenda? Il nous faut collaborer avec l'Église, venir renforcer ces équipes de moniteurs qui œuvrent sans relâche pour annoncer l'Évangile. Le geôlier l'avait compris, il a fait en sorte que Paul et Silas puissent annoncer l'Évangile à toute sa maisonnée. Ne reculons pas devant ce genre d'investissement. En faisant monter Paul et Silas dans sa maison, le geôlier a pris un risque. Parce que ce n'est que plus tard qu'il sut que Paul était un citoyen romain et qu'il pouvait exiger réparation pour tous les outrages qu'il avait subis. Au moment où il fit monter les missionnaires dans sa maison, eh bien, il prit un risque. Il fit preuve d'audace, de courage. Et c'est quelquefois ce qu'il nous faut faire aussi pour nos enfants. Mettons tout en œuvre pour que nos enfants et nos adolescents ne soient jamais privés de l'enseignement de la parole de Dieu qui est offert régulièrement dans votre Église. C'est tellement important. En plus de notre témoignage, de notre engagement sincère à suivre Christ et du témoignage vivant et vrai qui en découle, nous devons d'une manière ou d'une autre permettre à nos bien-aimés d'entendre l'Évangile. D'entendre l'Évangile. Peut-être vous dites-vous en ce moment, mais moi j'ai déjà fait tout cela. Et mes enfants font la sourde oreille. Ils continuent de refuser. Relisons ensemble les versets 26 et 27. Replongeons-nous dans l'expérience du geôlier. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le geôlier se réveilla. Dans notre histoire aussi, quelqu'un faisait la sourde oreille. Il faisait la sourde oreille au témoignage de vie de Paul et de Silas, ainsi qu'à leur annonce de l'Évangile. Le geôlier, finalement, ne voulait rien savoir. À tel point qu'il s'était permis le luxe de s'endormir pendant que nos deux super missionnaires témoignaient par le chant et la prière. Lui, il s'était endormi. Mais vous remarquerez comme moi que le Seigneur sait s'y prendre. avec ceux qui s'endorment. Il les secoue volontiers pour bien les réveiller. Ce tremblement de terre que le Seigneur déclencha n'ébranla pas seulement les fondements de la prison, mais il ébranla aussi toutes les certitudes de ce geôlier. Ce tremblement de terre ébranla tous ses repères, tous ses objectifs de vie, tous les fondements de sa vie, à tel point qu'à son réveil, il ne trouva plus aucune raison de vivre. Il arrive que devant l'endurcissement du cœur d'un homme, le Seigneur permette qu'il soit secoué, ébranlé dans ce qui fonde sa vie. Le Seigneur permette qu'il soit laissé seul, désespéré. Tout cela afin qu'il puisse ouvrir les yeux sur le salut qu'il lui offre, qu'il puisse l'accepter. Souvent, c'est l'orgueil qui nous rend aveugles et sourds et qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. Certains événements de la vie se chargent alors de briser cet orgueil qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Je peux m'en sortir seul. Bien sûr, on ne souhaite à personne ces tremblements de terre. Mais il faut reconnaître qu'ils peuvent vraiment être salutaires. Vraiment salutaires. Peut-être pensez-vous à l'instant, mais dans ce dernier point, je ne vois pas bien le rôle que je peux jouer, moi, là-dedans. Eh bien, il y a un rôle, oui. Car nous sommes là pour entourer de notre amour et de nos prières nos bien-aimés, afin que l'épreuve qu'ils endurent les pousse bien dans les bras du Seigneur et pas loin de lui. Parce que, comme vous le savez, l'épreuve peut très bien pousser aux pieds du Seigneur comme elle peut pousser très loin de Dieu. Souvenez-vous, à la suite du tremblement de terre et la libération des prisonniers, le geôlier allait sauter la vie. Paul et Silas auraient pu tourner les yeux, abandonner cet homme à son triste sort. Mais il n'en fit rien. Parce qu'ils avaient ce geôlier à cœur. Ils avaient ce geôlier à cœur, certainement. Nul doute qu'ils avaient prié pour lui. Nul doute qu'ils avaient prié pour lui comme pour le salut de tous les autres prisonniers qui les écoutaient. Nous de même, ne nous lassons pas de prier, d'intercéder pour les membres de notre famille. Soyons présents pour les entourer, pour les soutenir lorsque la terre tremblera sous leurs pieds. Lorsque les fondements de leur vie s'écrouleront sous leurs yeux, soyons là, toujours là, pour leur témoigner de l'amour inconditionnel du Père et pour les orienter aux pieds du Seigneur. Vous l'aurez compris, nous avons un rôle très important à jouer en faveur du salut des membres de notre famille. Et ce rôle consiste à être pleinement et sincèrement engagé à la suite du Seigneur. C'est vraiment capital, c'est primordial, mon engagement. Ce rôle consiste à mettre tout en œuvre pour que nos enfants puissent entendre l'Évangile, être conduits à Christ. C'est mon rôle également pour la génération suivante. Notre rôle consiste à les entourer, à prier pour eux avec persévérance, pour que le Seigneur se révèle à eux, même au milieu des tremblements de terre qu'ils peuvent vivre dans leur vie. La prière fervente et persévérante est le meilleur, et je dirais même le seul véritable moyen pour exercer une pression élevée sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos adolescents, en vue de leur salut. En vue de leur salut. La parole de Dieu nous encourage ce matin à devenir les modèles, les facilitateurs et les intercesseurs dont la prochaine génération a besoin. Je répète, les modèles, les facilitateurs et les intercesseurs dont la prochaine génération a besoin. Voulez-vous en faire partie? Je vous invite à un moment de prière. Courbons les fronts. Permettons au Seigneur d'appliquer cette parole. Permettons à l'Esprit de nous convaincre. Permettons au Seigneur de nous parler, chacun dans nos situations, dans nos vies. Le Seigneur nous connaît parfaitement, il connaît nos besoins. Et il veut agir. Il veut nous utiliser comme il a utilisé Paul et Silas. Il veut que nous soyons missionnaires. Nous soyons ses bras, ses jambes, son cœur pour la génération suivante qui se perd. Seigneur, nous venons à toi, toutes et tous, parce que nous voulons répondre à cet appel, cet envoi en mission. Seigneur, à ta question, qui enverrai-je? Nous voulons dire, moi, Seigneur. Avec mes faibles moyens, je veux me mettre à ta disposition. Viens enflammer mon cœur. Viens remplir ma vie. Viens, Seigneur, me remplir de ton amour débordant pour la génération, Seigneur, que tu aimes tant, cette génération qui a besoin de toi. Ô Seigneur, agis dans ma vie, agis dans mon cœur. Je veux prendre la décision ce matin d'être un acteur. Je ne veux plus être passif. Je veux être un acteur, mais selon ton cœur. Selon ta volonté, non pas avec mes forces, avec mes mots, avec... Non, juste avec ta passion, avec ce témoignage de vie, avec mes prières ferventes, avec mes priorités, en fonction de mes responsabilités dans ma famille. Seigneur, tu entends les prières qui montent vers toi maintenant. Tu entends les décisions ce matin. Et je te prie, Seigneur, pour que, par ton esprit, tu scelles ces décisions dans chacun des cœurs, afin qu'il y ait une mise en œuvre, Seigneur, selon ta force et ta puissance en nous. Béni soit ton Saint-Nom. Amen.